Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les Dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous voilà dans ce travail, cet échange que nous faisons sur la foi chrétienne. Nous voilà à cet article 232 du catéchisme qui commence « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».
Ainsi commencent toutes les prières.
Ainsi commencent toutes les prières, exactement. D'ailleurs, c'est intéressant, je me suis donc rendu compte, ces trois mots « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » que nous faisons en faisant le signe de croix, avant que nous ayons le grand signe de croix que nous connaissons, qui enveloppe tout le corps, qui dit que tout l'homme, de tout son être, il adhère à Dieu, et il a fallu un certain temps. Je crois avoir vu que c'est au XIe siècle que ce geste est apparu, et on a commencé dans les premiers temps de l'Église, avec des croix qui étaient faites sur le front, ou sur la poitrine, ou sur les lèvres. On retrouve ces gestes.
On retrouve à l'Évangile, d'ailleurs, au moment de la lecture de l'Évangile.
Oui. Et donc c'est intéressant de voir qu'un geste comme celui-ci, qui nous semble fondamental, a pris aussi son temps à trouver sa forme corporelle.
Oui, c'est comme s'il y avait la verticalité de la croix et son horizontalité. On est crucifié en écartant les bras et en se dressant sur quelque chose de très concret, terrestre. La croix est enracinée dans les profondeurs de la terre et en même temps... La Trinité vers laquelle nous nous dirigeons quand Jésus est sur la croix, non seulement il se tourne vers son Père, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » En même temps, il souffle le Saint-Esprit, d'une certaine manière, au moment où il expire. Et c'est quelque chose de très beau de voir qu'il y a comme le mystère trinitaire qui est comme lié avec le mystère de la croix. Et c'est beau que les chrétiens tiennent les deux dans cette profession de chaque prière que l'on dit le matin, que l'on dit le soir et que l'on recommande de dire souvent.
Donc la Trinité, ce chiffre 3 est très symbolique dans la tradition, tradition des croyants, tradition juive déjà, c'est un signe de Dieu.
Alors le mot Trinité n'existe pas concrètement dans la tradition juive, puisqu'il n'y a pas la foi en Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit, mais seulement en un Dieu un. Cependant, c'est vrai qu'ils aiment bien le chiffre 3 pour différentes raisons. D'abord, dans la liturgie quotidienne, on répète que Dieu est trois fois saint. Kadosh, 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 Adonai, on reprend les paroles du prophète Isaïe. Donc il y a quelque chose quand même qui fait un peu tremplin déjà chez eux par rapport à ce que nous disons, où il y a vraiment en Dieu trois personnes. Et c'est vraiment le grand mystère trinitaire pour nous qui est le cœur du cœur, puisque Jésus nous a révélé qu'il avait un Père. Et en même temps, il nous a annoncé le Paraclet, il nous a annoncé le Saint-Esprit. Donc il a pris sur lui que, outre sa mission, je dirais, de salut, a été une mission de révélation de l'intime de la vie divine, de l'intimité des relations divines. Donc c'est quelque chose de très beau, d'une participation encore plus forte que ce que nous aurions eu si Adam n'avait pas péché, si nous étions restés, je dirais, dans le paradis terrestre. Peut-être que nous n'aurions pas autant connu ce mystère trinitaire. Il y a comme un plus qui est donné. Nous nous souvenons qu'avec les pères de l'Église, nous croyons que en se révélant, en venant nous sauver, notre Seigneur a comme voulu même ajouter à sa miséricorde et cette très belle contemplation que nous pouvons faire nous réjouit. La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité, dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est central et je pense à ce que disait saint Augustin pour son importance. Chercher à concevoir l'unité de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est de toutes les études la plus laborieuse. En ce point, l'erreur est des plus funestes. la découverte de la vérité est des plus fructueuses. C'est-à-dire que c'est un peu un enjeu fort, parce que si je me trompe, c'est une catastrophe, mais si j'atteins en quelque sorte ce qui m'est donné déjà par l'Évangile et par la révélation et par la tradition qui m'est transmise, eh bien ça risque d'être pour moi le plus fructueux. Donc ça vaut le coup, je trouve, d'étudier la Sainte Trinité.
Mmh. Et je reviens finalement à ce que tu disais au départ, qui me fait réfléchir depuis tout à l'heure, le fait que la Trinité, donc cette expérience de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui marque notre foi chrétienne, n'existe pas comme telle dans la tradition juive, l'expression juive de la foi. Et pourtant, tu disais, le mot 3 ou la répétition de trois expressions comme kadosh, 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 oui. Saint, 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 marque quand même l'expression, une sorte d'expression de la foi. Alors du coup, j'étais en train de réfléchir à ces moments où on peut trouver donc dans l'Ancien Testament ces répétitions. Alors j'étais en train de me dire, quand on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Et oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai qu'il y a comme sans cesse des petites trinités sur la terre qui sont là. Et ces petites trinités rappellent que le chiffre 3 a toujours été perçu, même dans le monde païen, comme quelque chose de très grand. Aristote dit par exemple qu'il n'y a pas plus grand que le chiffre 3, tout simplement, parce que quand en se multipliant, 3 fois 3, 9, il se divise parfaitement, on additionne 1, 1, 1 et on tombe sur 3, donc il le trouvait merveilleux, ne serait-ce que par sa constitution. Mais cela ne permet pas de dire qu'un païen, ou même la révélation de l'Ancien Testament, ait pu atteindre la Trinité. Car la Trinité est un mystère qui fait que Dieu a voulu le révéler à certains, il l'a même caché au cœur des sages, comme dit l'évangile de Saint Luc, et il l'a révélé aux tout petits. C'est ce que Jésus redit dans ce chapitre 10 de l'évangile de Luc, à propos de cette action de Dieu dans l'histoire. « Je te bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, c'est le cœur des sages au sens biblique du terme, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir, tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc cette révélation est gratuite, c'est-à-dire nous ne pouvons pas l'atteindre par notre intelligence. Il a fallu que la deuxième personne de la Trinité s'incarne parmi nous, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, dit l'évangile de Saint Jean, et c'est à partir de ce moment-là que nous avons pu découvrir qu'il était le monogène, le premier-né du Père, le Fils éternel du Père, et en même temps, il nous a révélé cette communion d'amour, le Saint-Esprit. C'est un immense cadeau auquel nous n'avons aucun mérite et aucune capacité, je dirais, par nos propres forces humaines de l'atteindre. Il n'empêche que ce que nous avons dit au début de cet entretien montre qu'il y a de belles convenances, c'est-à-dire que Dieu a préparé les cœurs pour le recevoir, c'est ça. Il a préparé non seulement le cœur de nos frères aînés, les Juifs, qui récitent à chaque office de synagogue que Dieu est trois fois saint, 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 mais en même temps, même chez les païens, il y a eu comme une attirance vers quelque chose de très grand à travers ce chiffre 3 et ce chiffre 1. Car n'oublions pas que les anciens ont été très sensibles au fait de remonter à un premier principe. Et les grands philosophes de l'Antiquité cherchaient toujours où était le premier principe, qu'ils appelaient souvent avec les traditions religieuses Dieu. Nos frères aînés, les Juifs, aiment bien réciter le schéma Israël, Adonai Echad, écoute Israël, le Seigneur est un, le Seigneur ton Dieu. Donc l'unité, ça a pris des siècles, il faut bien se rendre compte, pour qu'elle soit bien admise par les cœurs. Il a fallu d'abord repousser l'idolâtrie, le polythéisme, toutes les erreurs qui avaient été semées par la zizanie des hommes et par leur manque de communion avec Dieu. Et il a fallu d'abord planter l'arbre très fort de l'unité. Nous avons de la chance, nous, parce qu'en français, ou en latin aussi, c'est le mot trinitas, trinité. Il y a comme, on dirait, le mot unité qui court derrière le mot trois. C'est très beau. Alors que les Grecs, par exemple, n'ont seulement que le mot triade, triados. Oui. Et c'est moins fort. Nous, nous avons comme le mot unité, mais c'est une affaire seulement de langage. Oui. Hein, c'est pas que Tertullien, qui est le premier à l'avoir utilisé, ait voulu coller tres et unitas pour faire un seul mot. C'est tout simplement parce que c'est comme ça qu'on disait pour des éléments qui avaient trois, disons, oui. Éléments. Et donc, le mot trinitas existait déjà pour désigner des réalités à trois têtes.
C'est ça. En n'oubliant pas que Trinité n'est pas un nom de Dieu, c'est une description, expression de sa réalité, de la réalité de son mystère.
C'est une expression
de sa
réalité.
On ne prie pas la Trinité comme telle.
On ne prie pas la Trinité, on prie Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit, et on baptise dans le nom de Dieu, et on ne dit pas qu'on baptise dans le nom du Père, puis dans le nom du Fils, puis dans le nom du Saint-Esprit. On baptise dans le nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Enfin, si quelqu'un commettait l'erreur de le faire, je pense que Ecclesia souplette, l'Église est capable de dépasser parfois certaines erreurs de célébrants, mais c'est vrai qu'il faut toujours se rectifier, ne pas hésiter à dire, si vous voyez un jour quelqu'un qui baptisait « Je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit », il faudrait lui dire après la cérémonie « Mon ami, tu t'es quand même largement trompé ». Il faut dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».